toujours avec vous. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour donc à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission. Et à la une, ce qu'on pourrait appeler les bébés du péché. 800, près de 800 squelettes d'enfants dont le plus jeune avait 2 jours et le plus âgé peut-être 9 ans, 9-10 ans, ont été découverts dans l'ouest de l'Irlande, près d'un monastère de bonnes sœurs. L'affaire a éclaté publiquement, en tout cas, et dans toute l'Europe, à partir du 4 juin dernier, au tout début du mois. Je vous propose tout de suite, d'ailleurs, d'écouter ce qu'en disait sur RTL lorsque la macabre découverte a été donc révélée, ce qu'en disait Jessica Agache, notre correspondante à Londres.
Ces bébés auraient été enterrés secrètement et sans cérémonie par des nonnes dans une cuve en béton située à côté de ce couvent tenu par les sœurs Bon Secours entre 1925 et 1961. Malnutrition, tuberculose, pneumonie, mais aussi certainement maltraitance, beaucoup de questions se posent désormais sur les raisons de la mort de ces centaines de bébés, dont le plus jeune avait à peine 2 jours. Une plainte a déjà été déposée par un proche d'un enfant ayant vécu dans cette institution et qui veut comprendre ce qu'il s'est passé. Les habitants de la petite ville de Tuam, où se trouve ce couvent, sont eux aussi sous le choc, au point que l'historienne locale à l'origine de cette découverte macabre est en train de récolter des fonds pour ériger un mémorial pour ces bébés, car les Irlandais très catholiques ne comprennent pas l'absence de respect pour ces corps qui n'ont même pas eu le droit d'avoir une tombe, et ils redoutent d'ailleurs de découvrir dans les jours qui viennent d'autres squelettes, victimes innocentes de celles que l'on appelait les Magdalen Sisters.
Voilà, donc Jessica Agache, c'était dans RTL Matin le 4 juin dernier. Alors pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ce que recouvre cette terrible découverte, j'ai demandé à Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien, de venir passer cette heure avec nous. Bonjour Jean-Marc Ducos.
Bonjour Jacques.
Vous avez enquêté sur place et vous retrouver dans quelques secondes pour nous dire si vous avez pu mesurer également dans cette petite ville de Tuam l'émotion en tout cas du gouvernement irlandais, parce que on dit que cette nouvelle ébranle le gouvernement donc irlandais. Et puis dans quelques minutes on ira à Tuam, c'est une petite ville qui est située à 30 km au nord de Galway dans l'ouest de l'Irlande. Je dis ça pour ceux qui aiment bien faire un peu de géographie, et on va retrouver David Burke qui est le directeur du journal de Tuam qui s'appelle le Tuam Herald et qui évidemment suit cette affaire. Ça se passe chez lui, et avec lui nous verrons comment en fait depuis plusieurs dizaines d'années il y avait quelque chose autour du lieu où on a découvert ces 800 squelettes. Alors Jean-Marc Ducos, donc vous, quand vous apprenez une dépêche de l'AFP en fait hein, qui nous a tous alertés, vous allez donc enquêter sur place.
Effectivement, je me suis rendu à Tuam il y a une dizaine de jours, et dès que je suis arrivé, j'ai tenu à aller sur les lieux, sur ce qui est devenu aujourd'hui ce terrain de jeu, avec un petit coin de pelouse verte dans un fond à gauche qui est matérialisé comme un lieu sacré, puisqu'il y a une croix et il y a quelques bouquets de fleurs, il y a une Vierge Marie, mais surtout c'est un endroit où beaucoup de gens en fait viennent se recueillir, et venaient déjà se recueillir dans le passé, parce que sans doute que ça s'est perdu dans la mémoire collective des gens de Tuam, mais beaucoup de gens savaient qu'à cet endroit il y avait quelque chose. Il y avait des corps d'enfants, beaucoup de gens le savaient, mais voilà, une fois de plus, sans doute au fil des ans, la mémoire des uns s'est perdue après la mémoire des autres, et voilà, il a fallu des recherches historiques d'une passionnée de sa ville et de sa région pour retracer le nombre impressionnant des enfants, du nombre d'enfants qui est sans doute enterré là.
Et surtout commencer à avoir une clé sur la question mystérieuse, c'est pourquoi ces enfants sont là. Je l'ai dit tout à l'heure, le plus jeune avait peut-être 2 jours, parce que ses ossements ont été évidemment étudiés, le plus âgé 9 ans, je crois, si je me souviens de ce que vous aviez écrit dans votre reportage.
Alors les ossements n'ont pas encore été étudiés, puisque on suppose qu'il y a 796 enfants, il n'y a pas eu encore de fouilles ni d'excavation.
D'accord.
Pour l'instant, c'est un calcul mathématique fait sur des registres de naissance et de mort. Ouais. Donc on est sur la présomption, mais voilà, quand on regarde bien ce site, hein, ce carré de pelouse entouré d'un petit muret de mauvais béton, quand on fouille le long des murs, on voit très bien qu'il y avait une très vieille plaque sur l'un des côtés, mmh. et une plaque assez ancienne, donc voilà, qu'il a supposé que ce cimetière était là depuis très très longtemps et qu'il a été préservé dans les années 70, lorsqu'il y a eu ces constructions nouvelles, ouais. sans doute à dessein.
Oui, parce qu'en fait, c'est le monastère dont il est question, on entendait tout à l'heure ce que disait Jessica Agache, ce monastère a été abandonné après 1961, et sur ces lieux-là, il y a un lotissement en fait, on a fait un lotissement.
On a fait un lotissement HLM, effectivement, ouais. un local housing, comme disent nos amis irlandais, ce sont des petites maisons mitoyennes, qui ressemblent à des HLM chez nous, et ces HLM ont bien pris soin justement de faire le tour du site de cette ancienne maison de la famine, comme elle fut appelée à une certaine époque.
Maison de la famine.
Voilà, ça a été appelé à une époque la maison de la famine, et qui a été aussi une baraque de l'armée irlandaise et de l'armée britannique. Et ces maisons font bien le tour. Et ne se sont pas approchés de ce site qui a été rasé dans les années 70.
Ouais. Alors on va raconter l'histoire de ce lieu dans un instant avec notre confrère irlandais David Burke. Je disais au tout début tout à l'heure au tout début de l'émission quand je disais à Vincent Parisot, Marie Guerrier de quoi on allait parler. Moi j'ai retrouvé ça dans la documentation, hein, dans le dossier. 1975, deux enfants, ils jouent à la marelle. Et puis il saute évidemment, sur une sorte de dalle en béton qu'on confond avec la terre, bon. Et puis cette dalle se serait fissurée, brisée. Vous pensez que ça peut être une légende locale? Je vous vois réagir à ce que je dis.
Non,
vous pensez qu'on a reconstruit l'histoire depuis?
Non, je pense pas, parce que j'ai rencontré donc Francis Hopkins, hein, qui est l'un des deux enfants qui a découvert cette fosse.
Oui.
Et il explique très bien qu'un jour, il avait l'habitude de chipper des pommes le long d'un arbre qui était le long d'un mur, et puis en sautant, il a senti que le sol était creux.
D'accord.
Et puis ils ont gratté, ouais. et ils ont découvert ces ossements.
Et vous l'avez senti vous-même, vous.
Et moi-même, j'ai tapé du pied.
Ouais.
On sent bien qu'il y a une résonance sous cette pelouse.
Ouais.
Qu'il y a une fosse ou une citerne. Mmh. Voilà, mais on sent bien que le sol est creux.
Alors voilà, qu'est-ce que c'est que cette citerne? Pourquoi ces 800 restes, presque 800 restes d'enfants se sont entassés là, sans qu'on connaisse leur nom, hein, exactement. On va y revenir dans un petit instant. On va aller à Tuam retrouver David Burke, et il va nous expliquer dans un petit instant, parce qu'il a beaucoup parlé de cette affaire évidemment dans le Tuam Herald. Il va nous dire ce qu'il faut en penser, puis on reviendra après sur toute la suite de l'histoire et cette historienne à laquelle on a fait allusion, vous l'avez rencontrée et interviewée. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous revenons donc sur cette affaire qui, dit-on, fait trembler le gouvernement irlandais, qui était un choc dans tout le pays. C'est un choc pour tous ceux qui ont appris cette nouvelle. 800, près de 800 restes de bébés près de ce couvent, de ce monastère. Ah, pour ça, en savoir plus, on va tout de suite retrouver David Burke. Donc, bonjour monsieur.
Bonjour Monsieur Pradel, bonjour Jean-Marc, bonjour les écouteurs.
Bonjour David.
Vous êtes directeur du journal Tuam Herald, et on a le bonheur d'apprendre que vous parlez magnifique français.
Oh pardon, pas magnifique, mais je m'excuse d'avance, mais faute de grammaire, ça, c'est un français un peu rouillé en ce moment.
Bon, on va le dérouiller ensemble. Est-ce qu'on peut revenir avec vous donc un peu à l'origine de cette histoire, parce que c'est, je disais donc, et d'ailleurs Jean-Marc confirmait qu'il avait rencontré l'un de ces deux enfants de l'année 75 qui avait fait ces découvertes d'ossements. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que on dit qu'il y a, les parents ont dit aux enfants, vous n'avez plus joué à cet endroit, et puis on a appelé un curé qui a fait une bénédiction sur le lieu, et puis après plus rien.
Oui, c'est ça ce qu'on nous dit, parce que en 75, personne ne savait ce que ça avait passé. Mmh. Seulement les parents, les jeunes garçons, je crois que c'était c'était une chose à cacher un peu, si vous voulez, parce que bon, trouver des squelettes, c'est pas très plaisant, mais il faut dire que n'importe où dans des cimetières anciens, on va trouver des choses comme ça de temps en temps. Ça se passe, ça se passait même moi quand je j'irais avec mon père dans les ruines des anciens abbayes de l'Irlande. On voyait de temps en temps des tombeaux qui étaient bien ouverts. Sûr. Il y avait des ossements là-dedans.
Mais David Bach, j'ai cru comprendre qu'au début, on avait pensé que ces ossements d'enfants, ça remontait en fait à la grande famine du 19e siècle qui a touché l'Irlande au point que une grande partie de sa population a dû émigrer. On avait avancé cette hypothèse-là pendant un certain temps.
Oui, c'est tout à fait possible. C'est même toujours possible parce que, comme Jean-Marc vient de dire, c'est un processus mathématique. En ce moment, on n'a que les chiffres que l'historienne Catherine Carles a ramassé.
Et oui.
Qu'il y a à peu près 800 bébés qui sont morts entre 1921 et 1925 et 1961.
Alors donc, justement,
ça veut dire, un moyen de peut-être 20, 23 par an.
Oui, bien sûr. Mais justement, David Burke, qui est occupé ce monastère, ce couvent?
C'était les bonnes sœurs du Bon Secours qui ont pris en charge les enfants, ce que nous appelions des orphelins, mais on ne savait pas à ce moment que c'était des enfants qu'on disait illégitime.
Et oui, né hors mariage.
Né hors mariage, oui.
Et on va raconter en détail tout à l'heure ça, parce que vraisemblablement les mères de ces enfants étaient dans d'autres monastères, dans d'autres couvents, avec d'autres institutions religieuses. Et en fait, ce couvent qui était proche de qui est à Tuam, c'était donc une sorte d'orphelinat, et avec évidemment, on l'imagine, comment dire, des conditions d'existence un peu difficile, non?
Oui, un peu difficile, mais il faut se rappeler que c'était une œuvre de l'État, du conseil municipal, si vous voulez, qui a été confié à ses bonnes sœurs.
Mmh. Alors, vous dites Notre-Dame du Bon Secours, c'est en français, c'est pas une traduction de l'anglais, là?
C'est un ordre français, j'en suis sûr.
Ouais, qui s'était installé donc en Irlande pour accueillir ses enfants.
Oui, je crois que c'était peut-être pendant le 19e siècle, parce que c'était un ordre de nonnes qui étaient infirmières, qui tenaient des hôpitaux, par exemple.
Ouais. Alors, on va revenir à l'histoire tout à l'heure, plus en détail, mais j'ai une question sur les réactions donc en Irlande, parce que on dit que évidemment ça a été comme un coup de tonnerre, que le gouvernement a d'ailleurs décidé, je crois, on parlera plus tout à l'heure, mais d'une commission d'enquête pour essayer de voir ce que recouvre éventuellement cette découverte. Vous avez publié dans votre journal, le Tuam Herald, des réactions de lecteurs. Elles sont pas toutes... Il y a un certain nombre de vos lecteurs qui disent arrêtez de taper en gros sur l'Église catholique parce que c'est peut-être pas aussi terrible que ça ce qui s'est passé. Je me trompe?
Oui. Il y a les réactions sont assez variées. C'est par exemple, selon la génération, moi je suis enfant des années 50, j'étais à l'école pendant ce qu'on disait les home babies, les enfants de la maison des pauvres, pauvres, venaient chez nous à l'école jusqu'à l'âge de 7 ans.
Oui.
Et on savait qu'ils étaient des enfants un peu différents. Mmh. On n'encourageait pas l'intégration avec eux.
Ouais.
C'était minable, abominable, mais c'était comme ça à cette époque-là.
Oui, mais alors jusqu'à 7 ans, et après, qu'est-ce qu'ils devenaient?
Après l'âge de 7 ans, normalement, ils allaient dans soit des écoles industrielles, soit ils étaient... placé chez des familles, surtout des agriculteurs.
Ah, d'accord.
Ils travaillaient, ils allaient aller en principe, ils allaient à l'école, mais il y en avait qui étaient maltraités, mm-hmm. tandis que il y en avait qui avaient hérité enfin la ferme.
Ah oui, quand même.
Les carrières étaient
très différentes les unes des autres.
Bien sûr.
Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, David Burke, dans un instant, après une nouvelle pause dans cette émission. On va essayer d'aller un peu plus loin sur ce qu'on peut reconstituer de la vie dans ce monastère, avec ses bonnes sœurs du Bon Secours, puisque Jean-Marc Ducos a rencontré quelqu'un qui s'appelle John Rogers, dont on va vous raconter l'histoire.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Je prenne des cours avec David Burke pour la prononciation des chansons. David Burke, on vous retrouve dans un instant. Je voulais vous prévenir tout de suite parce que on va raconter avec Jean-Marc Ducos l'histoire de John Rogers. Mais il y a une histoire qui est liée à celle-là et je voudrais après qu'on parle d'ailleurs d'autres institutions religieuses. Ça a donné lieu à un film célèbre qui a eu le Lion d'Or de Venise. Je crois je ne sais plus dans quelle année, mais enfin, c'était en 2002, et qui s'appelait The Magdalene Sisters. Mais d'abord, Jean-Marc Ducos, l'histoire de John Rogers, que vous avez rencontré, qui est un de ses enfants qui ont vécu là, dans ce couvent.
Effectivement, John Rogers a vécu ses 5 premières années dans le home, on l'appelait à l'époque de Tuam, et quand il est arrivé, on lui a rajouté un prénom typiquement français, un prénom qui est celui de Pascal, ouais. Parce qu'effectivement, les sœurs qui tenaient ce home étaient des sœurs françaises du Bon Secours de Paris, et qui avaient l'habitude de donner un prénom français à tous les enfants qu'elles accueillaient dans cette maison. Mmh. Et donc, il était évidemment à l'époque un tout petit garçon, et il en garde un souvenir parfois un peu flou, un peu diffus, mais il se souvient surtout du bruit des lits métalliques dans lesquels tous les enfants dormaient. Il se souvient aussi qu'il n'arrivait pas à garder un copain, parce qu'à chaque fois qu'il faisait un copain, il m'a dit il disparaissait, il partait, alors lui, il me dit, ma chance, moi, c'est que j'étais malade, donc j'étais tout le temps au lit, tandis que les enfants bien portants étaient souvent vendus pour adoption.
Vendus
pour adoption à des couples américains.
C'est lui qui vous a parlé de supermarché, de l'adoption.
C'est ce que lui a raconté sa mère, parce qu'à l'époque, il vivait avec sa mère au sein de ce home, et quand il a retrouvé sa mère au bout d'un long périple, au bout de 35 ans, sa mère lui a raconté effectivement que des couples venaient faire leurs emplettes d'enfants sains et beaux au sein de cette institution, dans des conditions effectivement sans doute à la limite de l'illégalité aujourd'hui. Et lui, il dit, voilà, ma grande chance, moi, c'est que j'étais tout le temps malade, donc moi, personne ne m'a adopté.
Et c'est terrible. Et comment, dans quelles circonstances, il a retrouvé sa mère, alors?
Alors lui, il a vécu de nombreuses années, il se souvient bien de ces petits lits métalliques instables, il se souvient aussi de ce bâtiment très délabré, avec les toilettes à l'extérieur, parce que ces bâtiments ont été longtemps des casernes militaires qui ont été reconverties en maisons d'accueil pour filles-mères, comme on disait. Et puis à 6 ans, il a été placé dans une ferme, comme l'a évoqué David Burke. Il a été placé dans une ferme, dans une ville à une trentaine de kilomètres au nord de Tuam. Oui. Et à l'âge de 6 ans, avant de partir à l'école, tous les matins, il faisait la traite des vaches, préparait le breakfast pour tout le monde, et il allait à l'école. Et il est resté une dizaine d'années dans cette famille avant de s'enfuir lui-même, mm-hmm. pour devenir, il a menti sur son âge, pour devenir machiniste à Manchester.
Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est sorti d'affaire.
Voilà. C'est comme ça qu'il s'est sorti d'affaire. Et puis après, il est devenu un ouvrier du bâtiment, un ouvrier de l'industrie pétrolière. Il a travaillé en Australie comme mineur. Ouais. Mais il avait toujours au fond de lui ce manque de mère, comme il dit, il me l'a dit. Et j'avoue, je suis pas ressorti intact de cet entretien, parce que pendant 30 ans, il a cherché sa mère par tous les moyens. Il a envoyé des courriers. Il a tenté de retrouver. Il avait quand même réussi à garder un lien pendant quelques années avec elle, puis il s'est perdu. Puis un jour, il passe une petite annonce dans un journal à Northampton, en désespoir de cause, une ville qui l'arpente pendant des heures et des heures et des jours même, tentant de retrouver un visage qui lui...
Parce qu'il pensait que sa mère pouvait être originaire de cette ville.
Il pensait que sa mère était dans cette ville.
Ouais.
Et parce qu'il avait des indices, des intuitions, il avait quelques éléments qui lui permettaient de se rapprocher de cette ville. Et il a passé une petite annonce dans un journal local.
Ouais.
Et quand il est revenu en Irlande, un télégramme l'attendait. Je pense être votre maman, rappelez-moi. Et c'était bien sa maman. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé Bridie, celle qui avait dû contrainte et forcée l'abandonner dans le home de Tuam.
On sent l'émotion que vous avez encore aujourd'hui en racontant cette histoire.
Mais John Rogers, son histoire est extrêmement touchante parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un solide gaillard, qui a fait 1000 métiers, mais pendant des années il a cherché sa mère.
Ouais, bien sûr.
Par tous les moyens, il y a laissé même une partie de sa vie familiale, sa vie personnelle, pour chercher sa mère. Il a pendant 35 ans.
Ouais.
Et c'est une histoire remarquable puisqu'il en a fait un livre à succès qui est paru en Irlande, puis en Angleterre, mais qui aujourd'hui a été oublié parce que voilà, toutes ces histoires autour de l'Église catholique irlandaise sont encore parfois entourées de tabous.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que il a publié son livre, il a raconté son histoire, il a retrouvé sa mère. On n'avait pas découvert les 800 squelettes.
Non.
C'est
non.
Et donc on en reparle maintenant, on reparle de cet homme, parce que on se rend compte qu'il a été élevé pendant plusieurs années dans cette
institution. Parce qu'il a été élevé dans ce fameux home. Alors quand il dit home, il m'a dit, je sais pas si c'est le bon mot, justement.
Mm.
Parce que il se souvient effectivement que parfois il mangeait pas toujours à sa faim, que sa mère lui disait que les sœurs n'avaient pas toujours les moyens d'apporter les bons soins aux enfants, et qu'elle n'avait elle-même pas d'argent pour les soigner.
Mm.
Et qu'on est dans une époque où effectivement la mortalité infantile était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, donc c'est ce qui peut choquer aussi certaines consciences aujourd'hui. Il faut aussi se resituer dans l'Irlande des années 20
ou
30.
Justement, ça, on va faire ça avec David Burke tout de suite. Juste un mot encore, David Burke, sur ce système, qu'on est en train de décrire. Alors, il faut pas non plus qu'on travestisse la réalité. Il n'y a pas de meurtre dans ces 800 enfants. Ce sont vraisemblablement des enfants qui sont morts de maladies.
Oui, ils sont morts de plusieurs maladies. Par exemple, la rougeole a emporté, je crois, une vingtaine dans les années 20, par exemple. Et il y a rougeole, il y a les maladies infantiles, je prends comment le dire en français.
Malnutrition aussi, je crois.
Malnutrition. Dans le cas de, je crois, 17.
Ouais.
Alors ça, je ne sais pas comment, parce que je crois que c'est peut-être à cause de quelque chose d'interne dans les enfants, parce que enfin, je sais qu'ils étaient nourris.
Et vous, pardonnez-moi, David, vous êtes dans la région, si j'ose dire, avec votre famille depuis très longtemps. C'est presque une dynastie journalistique, non? Vous êtes très très implanté dans cette région. Qu'est-ce qu'on en dit dans votre famille? Parce qu'il faut peut-être se replonger dans cette époque.
Oui, il faut dire que seulement pas la famille, mais les enfants de classe, les écoliers, quand on se rencontre, on parle toujours des home babies, ce qu'on disait. On parle de notre honte qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, on était éduquer à discriminer.
Et ça, c'était quoi? C'était le poids de la religion, parce que c'était des enfants du péché?
Oui, c'est ça, exactement. Et c'était dégoûtant, franchement. Ouais. Mais c'était la mode de pensée de la période.
Ouais.
La naissance hors mariage était honteux.
Ouais. Honteuse. Donc c'était des enfants qui n'étaient pas si importants que ça, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, on n'avait pas beaucoup de compassion. Alors, on fait juste une pause, on se retrouve tout de suite après, parce que je voudrais qu'on parle de la mère de John Rogers, qu'on comprenne, parce que elle avait subi un viol. Cet enfant est né d'un viol, et on va le raconter ça, donc, avec Jean-Marc Ducos et avec David Burke à Tuam.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors Jean-Marc Ducos, je rappelle que pour votre journal Le Parisien aujourd'hui en France, vous êtes allé enquêter sur place, voir les lieux, rencontrer des témoins, parler aussi avec David Burke qui est en direct avec nous de là-bas, du Tuam Herald. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire de John Rogers, cet homme qui a passé des années à essayer de retrouver sa mère. Il était passé par cette institution des Bonnes Sœurs du Bon Secours, et il avait eu un sort moins funeste peut-être que d'autres, puisque vous avez raconté son parcours. Qu'est-ce que lui a dit sa mère quand ils se sont retrouvés sur... quelle était l'histoire de leur séparation ?
Alors l'histoire de la mère de John, elle est encore plus terrible, hein, puisque sa mère était une enfant orpheline, une mendiante, qui a été arrêtée dans les rues de Dublin et qui, à l'âge de 2 ans, a été condamnée à être rééduquée. Et pour cela, elle a été envoyée dans une de ces fameuses écoles dites industrielles. Elle a été envoyée dans l'ouest de l'Irlande, à Clifden. Mmh. Et à ses 16 ans, elle a été relâchée dans la nature et placée dans une famille, comme servante.
Ouais.
Et là, elle a été violée. Et John est né, il est le produit de ce viol. Et donc, Bridey était effectivement une fille mère, et elle a été elle-même placée avec son fils dans le home de Tuam, où John a fait ses premiers pas.
D'accord. Ouais.
Et Bridey a raconté, lorsque 35 ans plus tard, sa vie à son fils, alors sans doute avec beaucoup de pudeur et d'éléments, mais elle avait pris soin de garder des notes, elle avait écrit certaines choses, et surtout, ce qui est très touchant, c'est que lorsqu'ils ont été séparés, elle avait réussi à garder une mèche de cheveux de son fils qu'elle a gardé pendant 35 ans
et qu'elle lui a montré.
Voilà, c'est la première chose qu'elle lui a remise au bout de 35 ans lorsqu'ils se sont retrouvés en 1985.
Alors, oui, mais pardon, si vous voulez ajouter quelque chose.
Bridey, c'est l'incarnation de la fille mère irlandaise qui est un jour mendiante, qui est envoyée dans une sorte de maison de correction, comme on dirait en France.
Où elle est violée.
Elle est placée dans une maison. Ouais. Elle tombe enceinte. Elle est renvoyée dans une maison pour fille mère.
Ouais.
Et de là, est elle-même renvoyée dans une autre maison de correction, ce qu'on appelle les fameuses blanchisseries, les Magdalena en Angleterre, qui étaient des véritables maisons d'esclaves.
Alors justement, vous faites bien d'en parler, parce que c'est ce que je voulais aborder avec David Burke. C'est le scénario, donc, on a compris l'histoire des enfants du péché. Cette femme qui a été violée, qui a eu un enfant de ce viol, va être accueillie donc chez vous à Tuam là pendant un certain temps avec son fils.
Un an,
c'est ça. Oui. Parce que on dit, je crois que dans la période 1925-1961, il y aurait eu à peu près 100 mères et 200 enfants qui seraient qui auraient été placés ensemble dans l'institution. Mais il y a un moment où il y a une séparation qui était décidée. L'enfant reste à Tuam et la mère part dans ce système qu'on a appelé, à cause du film que je rappelais tout à l'heure, elle devient une Magdalene sister, une sœur Magdalene, c'est-à-dire qu'elle va être employée dans un autre système religieux, dans des blanchisseries, je crois, où on peut dire maintenant avec le recul qu'il y avait une forme d'esclavagisme.
Oui, mais pas forcément toutes les mères, mais certaines-unes étaient employées dans ces blanchisseries.
Mmh.
Il y en a, mais je dirais que la plus tard émigrée, surtout en Angleterre, et travaillait là-bas comme, ouais, comme la mère de John Rogers.
Ouais.
Mais il y avait ces fameux, ce qu'on appelle en anglais Magdalen Laundries.
Ouais.
Et c'était, je crois que c'était surtout pour les femmes qui, peut-être, qui trouvaient la vie hors de la maison des pauvres difficile d'abord. Ouais.
Mmh.
Mais ce qui était très inquiétant, c'est que si elles voulaient partir de la blanchisserie, elles n'avaient pas le droit. Qui était complètement illégal, mais
elle n'avait pas de salaire non plus, donc.
Non, pas, non, je crois que non, oui. Mmh. Il vivait, elle vivait là, comme.
C'est pour ça que je parlais d'esclavage, quoi. Ouais.
Oui.
Une forme d'esclavage.
Oui, oui.
Proche de l'esclavage, on peut
oui,
dire.
Oui, parce qu'elles étaient, lorsqu'elles s'enfuyaient, elles étaient pourchassées par la police.
Ouais.
Et ramenées dans ces fameuses maisons.
Ouais. Alors, là, je m'adresse au directeur du Tuam Herald. D'abord, j'ai vu quelques articles que vous avez obligément envoyés. Vous avez publié la photo de quelqu'un en disant c'est le vrai Martin Sixsmith. C'est un personnage de film. Je vous en parle parce que beaucoup d'auditeurs nous appellent là au 3210 ou nous envoient des courriels là, sur RTL.fr pour nous dire mais il y a un film qui s'appelle Philomena, très récent, qui raconte une histoire très proche de tout cela.
Oui.
Mais là, c'est l'histoire d'une femme qui va chercher son fils.
Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Philomena Lee. Elle est en Angleterre.
Uh-huh.
Son fils a été adopté.
Uh-huh.
Il a été emmené aux États-Unis chez une famille riche, uh-huh, qui lui donnait un autre nom, Michael, uh-huh, Hess. Uh-huh. Et il est devenu avocat. Il était conseil chez l'administration de Reagan.
Mmh.
Et il cherchait sa mère. Sa mère le cherchait. Et ils arrivaient tous, malheureusement, pas en même temps, au couvent, pas à Tuam, au sud de l'Irlande.
Ouais.
Mais la bonne sœur n'a pas donné
d'informations,
ouais, ni à l'un ni à l'autre.
Ouais. Mais c'est un journaliste que Philomena a rencontré qui s'appelle justement Martin Sixsmith, hein, je crois.
Oui, un journaliste, ouais, anglais,
mm-hmm,
qui a rencontré, je crois, la fille peut-être de Philomena Lee à une soirée.
Ouais.
Et l'histoire s'est dévoilée après ça. Il a écrit d'abord un livre,
mm-hmm,
L'enfant perdu de Philomena Lee.
Ouais. Ouais.
Et puis on a fait le film après avec Judi Dench.
Ouais. La commission d'enquête gouvernementale, elle existe là, elle a été décidée.
Elle
par
vient
le gouvernement.
D'être, elle est en train d'être établie.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle va chercher à établir?
Il y aura des tas de choses à enquêter parce que ces maisons étaient répandues pendant sur toute
l'île
d'Irlande,
ouais,
au nord et au sud.
Ouais.
Il faut dire.
Ouais. Donc il y a une volonté d'essayer de mettre un peu les choses à plat, de revenir sur les conditions d'hébergement, si on ose dire, à la fois des mères célibataires, des enfants, etc. Alors, on va faire une pause dans l'émission, on va se retrouver dans quelques instants. Là, je demanderai à Jean-Marc Ducos de nous parler de sa rencontre avec l'historienne qui a découvert le poteau rose, et comme vous la connaissez aussi très bien, David Burke, on va essayer de parler de cette femme et de voir sur quoi va déboucher finalement son action. A tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
Dans un instant, nous retrouvons David Burke, le directeur du journal Tuam Herald, cette petite ville de l'ouest de l'Irlande, à une trentaine de kilomètres de Galway, qui est un peu la ville là où tout le monde a envie de venir en savoir plus sur la découverte de ces squelettes de bébés. On en parlait hors micro, hein. Il faut pas se tromper, Jean-Marc Ducos. Donc, on arrive à ce chiffre de près de 800 bébés, squelettes de bébés ou parties de squelettes sur une période qui commence en 1925 et qui s'interrompt en 1961, puisque à partir de là, le couvent ferme ses portes. Vous avez fait le calcul, on arrive à peu près à 25 décès d'enfants par an.
Entre 23 et 25 décès d'enfants par an, effectivement.
Et tous ces enfants se seraient retrouvés alors dans ces 200 mètres carrés, parce que là aussi, on a dit, on a parlé de cuve en béton, peut-être que c'était la fosse septique du monastère, mais vous qui êtes allé sur place, c'est 200 mètres carrés au sol, en fait.
Ça fait à peu près 200, 250 mètres carrés au sol. C'est une pelouse verte qui est très bien conservée. De longue date, il y a une vieille plaque sur un mur à droite qui a été occultée, mais qui montre bien que on savait qu'il y avait là des enfants ou tout au moins une tombe. Alors c'est vrai qu'en 1975, on a redécouvert tout ça à la faveur d'enfants qui ont découvert des os.
Mais c'est pas un cimetière.
C'est pas un cimetière en tant que tel.
Voilà. Voilà.
Ce qui choque le plus aujourd'hui la société irlandaise, c'est que une tombe d'enfant présumé n'est pas une sépulture digne et reconnue.
Et qu'on mette pas son nom.
Qu'on mette pas un nom sur une tombe. Sur une tombe. C'est ça qui choque surtout les Irlandais.
Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'est pour ça, pour ce que vous venez de dire, qu'une historienne locale qui s'appelle Catherine Corless a décidé de faire de rendre public tout ça pour faire une levée de fonds pour donner une sépulture digne à ses enfants, pour honorer leur mémoire et pour pouvoir mettre sur ce lieu une plaque, voilà, commémorative. Et puis ça l'a complètement dépassée. Alors cette femme, vous l'avez rencontrée, vous lui avez demandé d'abord comment elle était arrivée à ce chiffre. Alors ça varie d'un article à l'autre, 796, 797, on est dans...
On en reste à 796 pour
ça,
l'instant.
Ça, c'est le chiffre qu'elle vous a donné.
Voilà. Hein, Catherine Corless, c'est un petit bout de femme, une Irlandaise typique, mais une femme discrète, mais très tenace.
Oui.
Et qui est passionnée par l'histoire de sa ville. Elle est membre de la société d'histoire locale de Tuam. Et elle a fait un travail d'archiviste classique. Ouais. Elle a compilé tous les registres des morts à Tuam. Et elle a compté ceux qui étaient enterrés dans le cimetière officiel et ceux qui étaient enterrés et ceux qui n'y étaient
pas. Qui manquaient.
Et ceux qui manquaient.
Ouais, ouais.
Et dans les archives du comté de Galway, elle a retrouvé tous les noms des enfants déclaré mort dans le home de Tuam. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée.
Un registre avec, c'est comme ça qu'on sait que certains sont décédés de telle ou telle maladie.
De rougeole, d'anémie, de diphtérie, de gastro-entérite.
Donc on avait gardé le souvenir, en tout cas, de ces enfants dans les registres des bonnes sœurs.
Le nom de ces enfants existe dans les registres du comté, les archives départementales du comté de Galway.
D'accord. Et alors, vous me disiez en micro que elle n'a retrouvé la tombe que d'un seul enfant, mais dans un cimetière.
Alors, il y a qu'un seul enfant du home qui a été enterré dans le cimetière de Tuam, mais qui est à portée de voix de celui-là. Il
D'accord.
est à même pas 100 mètres, un peu plus loin, un peu plus au sud.
Alors, ce qui est terrible, c'est qu'elle n'a pas retrouvé le registre des mères.
Et non,
On connaît pas les noms de famille alors de ces enfants. C'est alors, des prénoms.
On a les noms de famille, mais on n'a pas effectivement le nom de registre des mères quand elles arrivent, quand elles repartent, si les mères elles-mêmes sont décédées ou pas. Alors sans doute que ces archives ont été emportées peut-être par les sœurs du Bon Secours. Est-ce que ces archives existent à Paris, dans les archives de cet ordre? Est-ce que ces archives sont quelque part ailleurs en Irlande? On ne le sait pas. En tout cas, on a un nom, un prénom, un âge pour ces enfants.
Je voudrais aller à Tuam de nouveau rejoindre David Burke. Il y a une question à propos du travail de cette historienne, David. Moi, ce que j'ai compris à la fois des articles de l'entretien qu'elle a eu avec Jean-Marc Ducos ou d'autres articles que j'ai lus dans votre propre journal, on a l'impression que le fait que ces enfants soient là, c'est une sorte de punition supplémentaire pour les femmes qui étaient considérées comme justement des pécheresses.
Bon, à ça, je ne sais pas. Je crois que c'était l'habitude à l'époque d'ensevelir les enfants comme ça. Il faut dire que en Irlande, dans toutes les paroisses, il y a, comment dirais-je, un endroit, un champ où sont ensevelis les enfants qui sont nés morts, qui sont nés sans être baptisés.
Ah bon, des sortes de fausses, ce qu'on appelle en français des fausses communes, où il n'y a pas le nom, donc en fait des défunts.
Oui, on mettait mais peut-être une pierre sur l'endroit où l'enfant était enseveli. Sans doute par leur peur, peut-être par nuit.
La nuit.
C'est dans l'histoire maintenant, mais c'est comme il était.
Ouais. Alors, on est dans une période aussi où, pour d'autres événements graves de l'histoire, l'Église d'ailleurs a exprimé sa repentance. Est-ce que c'est ce que demande l'opinion ou non?
Oui, l'opinion.
Je reviens à vous dans deux secondes.
Pardon.
Non, allez-y, je vous en prie, David Barthes.
Non, l'opinion se fixe sur ces choses qui ont un lien avec l'Église. Et il y a tout un tas de scandales qui ont été découverts en Irlande, comme partout.
Bien sûr.
Je crois que toutes ces choses, ils
ressurgissent. Oui, voilà, ça ressurgit maintenant parce qu'on a des moyens aussi peut-être d'aller plus loin. Et il faut dire aussi que c'est pas un phénomène malheureusement qui ne touche qu'un seul pays. Hein. Il y a beaucoup d'exemples très comparables à ce qui se passe chez vous. Je vous ai vu réagir, Jean-Marc Ducos. Vous dites quoi sur ce thème de la repentance? Vous avez appelé les Sœurs du Bon Secours à Paris, vous?
Oui. Alors c'est vrai que c'est un passé douloureux qui refait surface en Iran, parce qu'il y a eu cette accumulation d'affaires concernant des maltraitances et des affaires d'agression sexuelle, de pédophilie en Irlande. Mais c'est vrai que même sur place, les gens sont très partagés. Il y a ceux qui disent que finalement tout ça appartient à l'histoire et que il faut jeter un voile pudique dessus. Voilà. Et il y a des gens comme Catherine Corless qui disent mais non, il faut regarder l'histoire en face et au moins donner un nom, une tombe à ces enfants, parce qu'ils sont avant tout des citoyens, comme elle le dit très bien, des citoyens irlandais, des enfants comme les autres.
Et vous avez appelé les Sœurs du Bon Secours à Paris parce que vous pensiez que peut-être dans leurs archives elles avaient les noms.
Ah, sans doute qu'elles
mères, quoi.
Peut-être qu'elles ont des archives, mais encore faudrait-il les retrouver.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marc Ducos. David Burke, toute dernière question, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Vous pensez que Catherine Corless pourra inaugurer cette stèle avec le nom, ou tout au moins le prénom, de ces 796 enfants dans les mois qui viennent?
Oui, sans doute. Il y a un comité ici composé de Catherine et d'autres personnes de bonne volonté, et je crois que ça va arriver, mais il faut trouver les fonds. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'avec toute la publicité mondiale, très peu de fonds sont arrivés dans le compact bancaire.
Ben écoutez, on va faire une chose, c'est que Jean-Marc Ducos m'a donné toutes les informations pour ceux qui voudraient peut-être participer à ce souvenir de ces enfants. On va mettre ça sur RTL.fr. Je vous remercie beaucoup. On va rester en contact avec vous, avec le Tuam Herald.
Ah oui.
Merci vraiment infiniment d'avoir participé à cette émission.
Ouais, un plaisir.
Au revoir, Jean-Marc Ducos.
Au revoir, Jacques. Au revoir, David.
De toute façon, l'émission est maintenant terminée. On va rejoindre Flavie Flamand dans un tout petit instant.